en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Au début de l'été 2010, précisément les 3 et 4 juillet, s'est tenu à l'Université de La Rochelle le troisième colloque Droit et cinéma, organisé par la Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de l'Université de La Rochelle et dans le cadre du Festival international du film de La Rochelle. Y participaient l'académicien historien Jean Tullard de l'Académie des sciences morales et politiques et Françoise Thibault, qui fut professeur de droit public à l'Université de Poitiers et qui est correspondant de l'Institut dans cette même académie. Le thème de ce colloque concerne l'enfance et les enfants, tandis que celui de l'année précédente, en 2009, concernait le travail et il avait permis à Jean Tullard de considérer le contrat d'un tueur comme un contrat de travail. Vous pouvez l'écouter sur Canal Académie et prenez maintenant plaisir à écouter Jean Tullard et Françoise Thibault.
Deux monstres sacrés du cinéma n'ont jamais caché leur horreur des enfants, Alfred Hitchcock et W.C. Fields. Hitchcock, visitant le musée de la préfecture de police, dont ma mère était alors la conservatrice, et tombant en arrêt devant une gravure représentant un assassin d'enfants, murmura que c'était justice, car il n'y avait pas pire assassin que les enfants. Il le dit à voix basse, comme pour lui-même, et en anglais. Manque de chance, ma mère avait été professeure d'anglais, elle le regarda d'un air horrifié et il éclata de rire. De son côté, W.C. Fields est toujours flanqué dans ses films d'une horrible marmaille qui le persécute et lui envoie des coups de pied dans les tibias, surtout les petites filles. Et la haine de Fields pour Chaplin tenait à l'antipathie que lui inspirait ce kid dont on a déjà tant parlé, œuvre larmoyante du grand Charlot. L'enfant est pourtant l'un des héros préférés du cinéma, on vient de vous le montrer magistralement, et le 7e art a créé l'enfant star. Comprenons des enfants qui ont bâti une carrière sur leur jeune âge, ou plutôt que l'on a bâti pour eux. Car l'enfant star est inséparable de ses parents. Ce sont eux qui l'ont poussé, qui ont signé les contrats. Et il n'y a pas pire négociateur que les géniteurs de ces petits monstres. Un film l'évoque, Bellissima de Visconti en 1951. Maddalena, Anna Magnani, veut faire de sa fille une vedette de cinéma et multiplie les efforts pour y arriver. De ses enfants, le premier à émerger comme enfant star, c'est, on l'a évoqué, Jackie Coogan, qui est né en 1914 et qui débute en 1916 avec Skinner Baby, c'est dire qu'il est précoce puisqu'il débute à 2 ans. On n'a pas d'exemple d'enfant conscient ayant contrat, ayant débuté avant lui, sauf des images de bébé. Il a 6 ans lorsqu'il tourne le fameux Kid et à 10 ans, il a déjà derrière lui 12 films, dont un Oliver Twist et un enfant du cirque. Il est l'acteur des productions Coogan, supervisées par ses parents. Mais sa popularité chute brusquement en raison des procès qu'il oppose à ses parents concernant le montant de ses gains. Et il y a là un élément intéressant de voir l'enfant en procès avec ses parents, les agents s'en mêlant, ce qui vous explique qu'une telle âpreté de part et d'autre ait ruiné sa popularité. Par la suite, en vieillissant, il tombe au niveau de troisième couteau dans des polars, comme Le témoin doit être assassiné de Charles Haas, et il se consola dans les bras de Betty Grable, la première pin-up de l'histoire du cinéma, mais l'idylle ne dura que 2 ans. Autre star enfant, Judy Garland, née en 1922. Elle se produisit à 5 ans dans un tour de chant avec ses 2 sœurs à Los Angeles. À 7 ans, elle part déjà en tournée comme un vulgaire Johnny Hallyday et elle s'appelle alors France Gunn. Elle débute à l'écran en 1936, voyez, relativement vieille, et elle devient célèbre en 1939 avec Le Magicien d'Oz et elle entame à partir de ce film une nouvelle carrière. Auparavant, comme petite fille, elle apparaît dans la saga de la famille Andy Hardy, où elle est confrontée à un autre enfant prodige, Mickey Rooney, né en 1920 et star dès 1926. L'affrontement entre Judy Garland d'un côté, Mickey Rooney de l'autre, sur les plateaux de l'insipide série de la famille Hardy, est un affrontement particulièrement sanglant. Tous les coups sont permis pour capter l'attention de la caméra ou pour avoir des contrats plus avantageux. Avantage à Rooney, parce que grâce à sa petite taille, il vieillit moins vite, alors que Judy Garland, qui doit sans doute consommer trop de bonbons, est menacée un temps d'obésité. Que l'on se rassure, Judy et Mickey, enfin adultes, se retrouveront dans les comédies musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, nettement plus inspirées que la stupide série des Andy Hardy. La star, par excellence, on a prononcé son nom tout à l'heure avec vénération, c'est Shirley Temple. L'horreur absolue pour les garçons de mon âge, contraints de voir à la fin des années 30, traînés par des grands-mères ou des tantes dont Shirley Temple était l'idole, cette horrible caniche bouclée, vedette de la mascotte du régiment, du petit colonel ou de Susanna des Montagnes, pâle mièvrerie quand ces infortunés petits garçons dont j'étais aspiraient à voir les justiciers du Far West ou une aventure de Buffalo Bill. Vedette à 4 ans, star numéro 1 du box-office à 6 ans, elle fut dirigée, et les bras vous en tombent, par John Ford, Henry Hathaway et Alan Dwayne, plus à l'aise pourtant dans le West End. Voilà donc Shirley Temple. Après la guerre, il y eut également encore des enfants prodiges, le conflit mondial étant passé par là. Et le néo-réalisme s'empare effectivement de l'enfant avec Chouchia en 1946, le voleur de bicyclette en 1948, ou l'image finale du jeune garçon prenant la main de son père en marque de confiance remuera longtemps les âmes sensibles. Et n'oublions pas Jeux interdits 1952 avec Poujouli et surtout Brigitte Fossé qui fera la brillante carrière que l'on sait. Avouons-le, il y a beaucoup de niaiseries, de sensibleries dans les œuvres des enfants stars. C'est un adulte qui a écrit l'histoire et qui est derrière la caméra. Il abrutit l'enfant, le pliant à sa volonté d'offrir de lui une image idéalisée, image féerique, familiale, sociale, quand il n'a pas, comme François Truffaut et son Antoine Donnel qu'on vient d'évoquer, la nostalgie de sa propre enfance. Mais le cinéma est quand même un art adulte, un art conscient, et nous allons revenir à Hitchcock et à son mot sur les enfants. L'an dernier, j'avais évoqué devant vous le contrat du tueur et avait surgi sur l'écran les mines patibulaires de Charlie McGraw et William Conrad qui vous avaient glacé d'effroi. Eh bien, mesdames, messieurs, ce sont des enfants de cœur face à l'enfant assassin. L'enfant assassin, c'est souvent une fillette. La fillette est inquiétante, sournoise, perverse, Qui ne se souvient de Roland, de l'ingrate adolescente à lunettes qui interprète Lily Meynier dans Le Corbeau ? Elle est toujours là où il ne faut pas être, faisant rebondir son ballon sur les murs, écoutant, épiant, au point qu'on finit par croire que c'est elle, le corbeau. La fillette meurtrière par excellence, on vient de vous l'évoquer, c'est Rhoda dans « Mauvaise graine, Bad Seed » de Mervyn LeRoy en 1956. C'est l'un des sommets du film noir, mais au lieu d'avoir Laureen Bacall et Humphrey Bogart, on a une fillette, ce qui est bien mieux, et d'ailleurs coûté moins cher. Et cette fillette, dont le film noie, brûle, tue, sans la moindre pitié et sans le moindre remords. J'aurais pu aussi citer, il a été fait, l'autre de Mulligan, 1972, où là, ce sont deux jumeaux, dont l'un est un meurtrier, mais lequel ? Ou peut-être les deux. À dire vrai, l'ingéniosité des crimes de l'autre, notamment un malheureux qui dévale une meule de foin et il ne se doute pas qu'au bas de la meule de foin, il y a une fourche qui a été déposée là et sur laquelle il va s'empaler, l'ingéniosité des crimes d'enfant dans l'autre est tout de même atténuée par le fait que nous avons affaire à des jumeaux et que par ailleurs je tenais à ce que vous gardiez uniquement le souvenir de petite fille, considérant d'ailleurs que dans le crime, une fille vaut deux garçons. Mais dans la vie criminelle d'Archibald de la Cruz, par exemple, un petit garçon, cette fois, est convaincu qu'une boîte à musique peut matérialiser tous ses désirs. Et il souhaite la mort de sa jeune institutrice, et celle-ci est aussitôt tuée d'une balle perdue. Et le petit garçon contemple longuement les jambes gainées de soie de son institutrice avec autre chose peut-être que des intentions homicides. Ces instincts sanguinaires de l'enfant sont matérialisés dans la fable cruelle du Seigneur des Mouches de Peter Brook. La naïveté et le dénuement de l'île où ont échoué des naufragés forme une page blanche où s'inscrit sans retenue la violence du pouvoir. Et c'est la science-fiction qui a le mieux compris cette menace que font peser les enfants. On a évoqué le village des damnés où les enfants blonds et magnifiques sont évidemment l'avenir du monde, c'est-à-dire qu'ils vont s'emparer du monde des adultes. Plus les enfants sont beaux, plus ils sont criminels, et plus les enfants sont blonds, plus ils sont assassins. Alors, que l'on ne vienne pas me faire pleurer sur l'enfant proie fragile de redoutables prédateurs, de violeurs, de voleurs, etc. J'aurais pu là aussi, mais je ne disposais que de 20 minutes, passer la nuit du chasseur, qui nous montre comment deux enfants, détenteurs d'un secret transmis par leur père, tiennent tête avec succès au terrifiant Robert Mitchum, et à la fin, vous êtes plus terrorisés par les enfants que par le malheureux Mitchum. J'ai été bref, puisqu'on m'avait demandé de l'être, ce n'est qu'une simple introduction. Eh bien, si le cinéma est le reflet de notre temps, comme l'a très bien montré dans un livre récent mon collègue Serge Sûr, alors, mesdames, messieurs, faites confiance à Fields et à Hitchcock. Évitez les enfants, cela vaudra mieux pour votre intégrité physique et psychique. Merci.
Louis Malle aborde vraiment les enfants dans ses films tardivement, alors qu'il fabrique du cinéma depuis plus de 12 ans. Ce démarrage tardif va se produire selon un long cheminement intérieur, une longue introspection qui durera toute sa vie. En fait, Louis Malle attendra que sa propre mère ait disparu pour raconter vraiment ses souvenirs très vifs et très présents de sa propre enfance. Louis Malle adorait sa mère. Il a dit et il a écrit qu'au lieu d'une importante fratrie, ils étaient trois frères et deux sœurs, il aurait voulu être enfant unique. Tout en l'adorant, il lui trouvait plein de défauts, elle n'était pas conforme à ses désirs. C'était une demoiselle Béguin des Sucres du Nord, elle était à son goût trop grande bourgeoise, trop catho, trop conformiste, trop tout. Il l'aurait voulu plus aventureuse, mais il l'adorait. À plus de 40 ans, lorsqu'il lui écrivait, et il lui a beaucoup écrit, étant donné qu'il a vécu 10 ans aux États-Unis et a beaucoup voyagé, il commençait toujours par « douce mère ». La question de la mère chez Louis Malle est fondamentale. Deuxième remarque, l'enfant de Louis Malle est normal. Je dirais presque abominablement normal. Il est bien inséré dans son milieu, généralement bourgeois. Ce n'est ni un révolté comme chez Truffaut, ni un provocateur comme chez Bertrand Blier. Et même Lucien Lacombe est très bien intégré dans son milieu. C'est un paysan. Il sauvera la jeune fille qui s'appelle France et sa grand-mère en leur trouvant une ferme abandonnée, en leur apprenant à cultiver les légumes, à s'occuper des poules. Lucien Lacombe est un enfant de l'assistance en milieu paysan, rural, mais qui aime les voitures, les beaux costumes et les armes à feu. C'est tout. Et c'est ce qu'il perdra. Le vrai Lacombe Lucien, d'ailleurs, a existé et sera exécuté par les FFI en 1945. L'enfant de Louis Malle est dans son cadre. Il subit le cadre imposé par les adultes, sa famille, l'école, la pension, la société. Il est dedans, même s'il n'y comprend rien, et sans apparente révolte, du moins au départ. Mais il a un œil critique et enregistre toutes les situations. Il garde la mémoire de l'injustice, comme dans Le voleur, ou Au revoir les enfants, ou de l'absurdité, comme dans Le souffle au cœur. L'enfant de Louis Malle ne parle pas comme un adulte, il parle comme un enfant. Il ne donne pas de leçons aux adultes, travers absolument odieux des films américains. Il ne délivre aucun message, il ne parle pas aux extraterrestres, il ne sert pas de médium pour résoudre les problèmes des adultes. Il est là avec son jeune œil critique et détecte les iniquités. L'enfant de Louis Malle est banalement normal, avec des pulsions et des sauvegardes d'enfants. Voyons cela d'un peu plus près. D'abord, j'élimine Zazie. Zazie dans le métro en 1960. Zazie n'est pas une enfant. C'est une adolescente montée en graine, un être métaphorique qui détecte les incongruités de la vie urbaine, lointaine cousine de Sally Marat, j'espère que vous avez tous lu Sally Marat, due au génial Raymond Queneau et qui parle un argot très recherché. Certains d'entre vous se rappellent peut-être « Qui c'est-y qui pue donc tant ?»« Barbouze de chez Fior », etc. Elle est un exercice de style qui surprit d'ailleurs dans le voyage que fit Louis Malle à travers tous les genres cinématographiques. Mais elle n'est pas très intéressante et sera vite oubliée. Le personnage intéressant de Zazie, c'est Tonton Gabriel, incarné par Philippe Noiret, lequel inaugure là son personnage de nounours bourru à la belle voix sonore qu'il peaufinera de comédie en comédie. Donc, exit Zazie. Le premier enfant mis en scène et en situation par Louis Malle est dans Le voleur. Malle a 35 ans. Le petit Georges, spolié et volé par un oncle peu scrupuleux, l'extraordinaire Pierre Bertin dans ce rôle, s'entend dire sur la tombe de ses parents « Tu ronges tes ongles ? Ne ronge pas tes ongles. Si tu veux ronger des ongles, ronge ceux des autres. » Parce que tes ongles sont ta propriété et tu dois respecter ta propriété. L'enfant écarté de la confortable vie bourgeoise, voire même grande bourgeoise, se vengera. Il dira « J'ai fait 7 ans de pension et 7 ans de service militaire, la société me doit 14 ans de liberté ». Il se vengera donc adulte, deviendra voleur de haut vol, des nantis qu'il exècre, et spoliera à son tour l'ongle au seuil de la mort, le privant au surplus d'obsèques religieuses. Malle est mentalement très proche de Georges Darien, dont le livre l'avait captivé. Avec Jean-Claude Carrière, il engommera les excès, il ne gardera que la première partie de l'ouvrage littéraire. Les dialogues sont d'une grande fidélité à ceux du livre. Mal, par naissance et par éducation, est lui-même un grand bourgeois, capable, à l'époque, d'autofinancer ses films dans une liberté totale. Il ne se considérera jamais comme appartenant à cette caste, tout en ayant par ailleurs les manières et le mode de vie. Ensuite, une fois qu'il a lui-même grandi, Mal devient metteur en scène des apprentissages, des deux apprentissages sociaux les plus importants, le sexe et l'argent. Le souffle au cœur, la comblucien, la petite, au revoir les enfants. À travers ce cinéma-là, nous avons l'illustration magique d'une mutation certaine. Le film d'apprentissage a pris la suite, remplace même parfois le livre d'apprentissage. John Borman et Stevenson, Ken Loach et Dickens, Louis Malle et Gide. Ils partagent d'ailleurs avec cet auteur le même anathème, on l'a souvent qualifié d'immoral. Mais non, Malle n'est pas immoral, il est amoral. Hors leçon de moralité. Il ne juge pas ses protagonistes, il ne tente pas, à travers le regard de l'enfant, de dire c'est bien, c'est mal. Il montre, c'est tout. Rappelez-vous la dernière scène d'Au revoir les enfants, le départ de l'abbé, ou bien celle de la petite quand elle repart avec sa mère, au grand désespoir de David Carradine. Ce sont des regards lourds, mais distanciés, ces regards d'enfant, dont on comprend qu'ils détermineront ensuite toute une vie. Enfin, Louis Malle, après avoir tout au début exploré en noir et blanc la solitude des adultes, met en scène la famille ou ce qu'il en reste. Il met surtout en scène les mères, car l'histoire de Louis Malle est celle de lui avec sa mère réelle et sa mère fantasmée telle qu'il l'aurait désirée. Les films de Louis Malle, c'est le procès des mères, de celles qui ne le sont pas. Rappelez-vous la vieille d'Atlantic City avec ses petits chiens et dans le même film, Suzanne Sarandon qui joue à la mère protectrice avec son jeune frère irrécupérable. Les hommes, les pères, sont largement absents, comme dans la propre enfance de Louis Malle, étant donné que son père a été réquisitionné dans ses usines du Nord pendant toute la durée de la guerre, donc il ne l'a pratiquement pas vu pendant 5 ans, à un âge très stratégique, je dirais. Donc les hommes, les pères, sont très largement absents des films de Louis Malle, ou sont des êtres faibles. Les amants, remis à la verticale, sont ennuyeux, incolores. Le seul homme fort de ces familles est dans la Comblucien, car il faut bien un homme solide face au rustique et infantile toupet de Lucien. C'est M. Horn, un grand-père, mais qui, lui aussi, finira par démissionner, écœuré de la sottise et de la cruauté des hommes. Tel aussi le petit garçon d'Au revoir les enfants. Cela commence, dans la filmographie de Louis Malle, avec ses mères qui, je le cite, « foutent le camp ». Elles foutent le camp avec les hommes. Elles vous plantent là pour vivre leur vie. La première du lot fut Jeanne Moreau dans Les Amants en 1958. Pensez donc, une grande bourgeoise de province plante là Marie Assommant, amant snobinard et surtout une petite fille de 6 ans pour se tirer avec un hypothétique universitaire en jean et en 2 chevaux. Le film fit scandale, non seulement à cause des scènes érotiques, mais surtout par cet abandon d'enfant. Il fut fustigé par l'élite catholique et interdit dans de puritains diocèses. Il est d'ailleurs toujours interdit dans certains États des États-Unis, tout comme la petite. Ensuite, vous avez Léa Massari dans Le souffle au cœur, une situation d'un enfant un petit peu asthmatique qui est en cure avec sa mère. Louis Malle vécut lui-même cette aventure avec sa propre mère, évidemment dans un style moins voyou, mais il profita au maximum de cette parenthèse de 4 mois avec sa mère pour cause de crise asthmatique. Alors, dans Le souffle au cœur, Léa Massari est également une mère marginale, j'y reviendrai. Vous avez Suzanne Sarandon, qui, dans La petite, par chercher la respectabilité bourgeoise avec un de ses clients. Vous avez Leslie Caron dans Fatal, mère avisée et cruelle de Juliette Binoche, mère toujours absente qui a épuisé quatre maris et scandalise la midonnée famille britannique du fiancé de sa fille. Ces mères indignes viennent vous voir de temps en temps dans votre pensionnat, vous emmènent déjeuner au restaurant avec un copain, et puis elles vous plantent là, sur le quai de la gare, en rabaissant leurs voilettes. Mais en même temps, ces mères absentes et délurées sont de bonnes mères. Elles vous embrassent, elles pleurent en partant, et elles reviennent vous chercher quand la passion est enfuie ou quand la situation bourgeoise est établie ou bien rétablie, quand elle redevient atteignable. Ces mères, sans être extravagantes, enfreignent les codes bourgeois. Elles peuvent même être révoltées, comme Léa Massary, qui non seulement est ressentie comme différente, mais au surplus, elle est étrangère. Elle parle avec un accent et elle a des manières non habituelles de la vie de province française. Ces mères sont à la marge. Elles transgressent les interdits, la loi du mariage, les conventions. Et les enfants enregistrent, intègrent cette donnée d'une possible transgression. Ils la garderont en réserve dans leur tête et sauront toute leur vie que l'on peut franchir les barrières, aller au-delà de la norme reçue. Ce que fit d'ailleurs Louis Malle toute sa vie. Je crois que c'est cela qui est important, à la fois dans le regard de Louis Malle sur les enfants, mais aussi dans la vie. Ces enfants ne sont pas transgressifs, mais ils savent qu'ils le seront un jour. Deux explorations encore avant de conclure. L'avant-dernier film de Malle, Fatal, en 1992, le dernier est Vania sur la 42e rue, qui est un film totalement onirique, merveilleux, et sans enfants, et new-yorkais. L'avant-dernier film, donc, Fatal, en 92, a été présenté comme une sorte de paroxysme passionnel entre un ministre britannique, Jeremy Irons, et une courtière en art de Sotheby, énigmatique et vénéneuse. C'est également un film très européen, au moment où l'Europe s'élargissait, puisqu'il se déroule entre Londres, Bruxelles et Paris. Il a semblé à la plupart des critiques le dernier rêve érotique d'un réalisateur mourant. Un peu comme si, désamant à Fatal, il bouclait la boucle des désirs amoureux. C'est peut-être vrai, c'est en partie vrai. Mais Fatal, pour Malle, au fond de lui, est métaphorique. Il veut dire tout autre chose. La petite mère Binoche, prête à épouser Matthew, son fiancé, devient la maîtresse surchauffée de son futur beau-père, qui sous ses grands airs de ministre, en fait, est un faible. Il y a en elle une fêlure irrémédiable, due au manque d'amour dans son enfance, à une mère toujours absente et destructrice, à un père disparu, au jeune frère suicidé, à la solitude, au sentiment d'abandon de l'adolescence. En face d'elle, son fiancé, Matthews, est un fils idolâtré par sa mère, adoré par sa jeune sœur, encensé par ses grands-parents, espoir flamboyant de toute une famille. C'est trop d'amour qui l'accable. Il l'exprime d'ailleurs lors d'un repas de famille mémorable. Cette opposition entre le trop et le pas assez d'amour est le vrai sujet du film. Malle nous y confie que la famille ou l'individu qui élève un enfant doit trouver, même au milieu de ses difficultés, un équilibre entre le trop et le pas assez. Sinon, on va irrémédiablement vers un non-conformisme destructeur, vers le non-droit social, la non-intériorisation des normes correctes. D'ailleurs, la mère de Binoche, l'étonnante Leslie Caron, dans ce rôle, femme qui a tant vécu et qui, dans son extravagance à tout piger, prévient Jeremy Irons. Elle lui dit « Vous n'osez même plus la regarder, laissez tomber. Les gens qui ont beaucoup souffert sont dangereux, car ils savent qu'on peut s'en sortir. » et elle rappelle, extra-lucide, que l'empreinte de l'enfance est indélébile. Enfin, il y a l'enfant le plus enfant. C'est Milou, l'éternel enfant malgré ses plus que 60 balais, ses épouses et sa progéniture. Milou est revenu chez maman, dans la maison de son enfance, chasser les papillons, lire, divaguer, traquer les écrevisses et se faire à la fois esclavager et servir. C'est un film qui a été tourné très vite, en un été, en 6 semaines, en 1989, juste après la disparition de la mère de Louis Malle, sur un sien scénario et des dialogues composés à la va-vite avec Carrière, mais assez génialement. Milou en mai est une fable sur l'enfance éternelle. Vous vous rappelez probablement le sujet du film, on est en mai 68, la mère de Milou meurt brusquement. De Gaulle a disparu, on ne sait pas où il est peut-être mort aussi. C'est la grève générale, tout est figé, c'est un bazar épouvantable, il n'y a plus d'essence, les camionneurs sont déprimés, les Parisiens sont en fuite et doivent être secourus et hébergés. La famille de Milou, ses filles, Miu Miu en enquiquineuse dodue est épatante, c'est un de ses meilleurs rôles, et Milou en mai est le seul film où Louis Malle fera apparaître ses deux sœurs. Les deux sœurs de Milou en mai sont en fait des caricatures des deux sœurs de Louis Malle. Les gendres sont incolores, comme d'habitude, et leur progéniture débarque pour les obsèques et la succession. Tout cela crée un désordre inextricable qui tourne au délire collectif. Les filles se disputent les meubles et l'argenterie, De Gaulle revient, les gendres sont dépassés, les Parisiens angoissés, Milou joue avec ses petits-enfants et séduit pour rire, pour voir si ça marche encore, une jeune campeuse errante. Et tout passe, tout le monde s'en va. Qui avec l'argenterie, qui avec des bibelots, d'autres avec des sandwichs, puisque le boulanger passe à nouveau. La chambre mortuaire au rez-de-chaussée, en face du salon, est vide. Milou, dans la maison dévastée, à demi démeublée, retrouve le silence, le bourdonnement des abeilles et la sérénité. Et il y a les deux plans de fin. D'abord, la caméra glisse sur le salon vide, en grand désordre, avec des meubles qui manquent. Les volets sont mi-clos, la silhouette de Milou passe brièvement un peu floue. Puis la caméra glisse encore vers la droite, passe dans l'entrée de la maison, au carrelage noir et blanc. On aperçoit vaguement la chambre funéraire où il n'y a plus rien. L'entrée est vide, à contre-jour. Les portes sont grandes ouvertes. On entend les abeilles et sans le voir, on entend la voix de Milou qui dit sur son ton habituel « Maman, maman, où êtes-vous » Finalement, et pour en finir avec cette intervention, que nous disent les films de Louis Malle? Pour les filles, il reste perplexe. Sa quête n'est pas finie. Il a peu parlé des filles. Sauf pour la petite qu'il rend aussi perverse qu'une femme une fois qu'elle est déflorée. La preuve qu'il n'a pas fini son enquête est dans la forte impression que lui fit le livre de souvenirs de la fille de Marlène Dietrich, dont il avait tiré un scénario. Il comptait mettre en image cette haine-amour si étrange. Uma Thurman était d'accord. Il lui avait fait faire des essais, elle était enthousiaste. Un plateau avait été réservé pour 6 semaines à la Cinecittà. Le financement était agencé en grande partie grâce à son frère Olivier Malle. Mais Malle était trop épuisé et n'a pu mener à bien cette réflexion. Pour les garçons, c'est beaucoup plus clair et net grâce à son propre vécu. Les films de Malle nous disent que les bonheurs et les brisures de l'enfance sont indélébiles et que les adultes donnent aux enfants des schémas de conduite ou d'inconduite qu'ils trimballeront en y adhérant ou en les refoulant toute leur vie. Mais surtout, il nous dit que les hommes, quand ils l'ont aimé, même s'ils pratiquent d'autres femmes, n'en aiment qu'une, leur mère. Et s'ils l'ont détesté, ils détestent toutes les femmes, même s'ils en usent, et sont incapables d'un attachement durable. Je vous remercie.